Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Quémard pour son ouvrage « La Grande Guerre de Louis » publié aux éditions de l'Officine, ainsi que pour son roman historique « La Résistante du Val des Couleurs » publié chez L'Harmattan. Avec nous également John Bulit qui nous fera la lecture de sa nouvelle « Coccinelle Love ». Tout un programme. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien.
Bonjour Mona, bonjour,
très bien.
Alors Jean-Luc, dans La Grande Guerre de Louis, vous racontez la vie des poilus depuis la mobilisation générale jusqu'à la fin de 1916, et notamment le parcours de Louis. Louis est un personnage qui a existé ?
Louis, effectivement, il a existé, puisque c'est mon grand-père paternel.
D'accord. Voilà. Alors les poilus, alors pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous voulez bien expliquer l'origine de ce nom, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne vient pas du fait que les soldats avaient du mal à se raser et à faire leurs ablutions dans les tranchées?
Non, pas du tout. Ça, c'est une fausse idée. Oui. Le mot « poilu » vient d'une pièce de Molière. Et depuis, qui a été donc, si vous voulez, diffusé donc, dans pas mal de régiments, car on parlait surtout de la virilité de l'homme. Voilà. Et cette pièce, disons, ça faisait référence à une pièce de Molière où il était intitulé dans un acte « Monsieur Trois Poils ».
Voilà. D'un brave à trois poils, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, ça, un Monsieur Trois Poils, c'est guerre virile. Donc, les poilus, bon, ben, finalement, ont repris donc ce titre à leur profit, et ça avait été déjà usité chez les grognards de Napoléon, d'ailleurs.
Oui, oui.
Bien
mais ça,
avant.
On le savait pas, oui, effectivement.
Voilà.
C'est pas très connu.
C'est peu commun, c'est peu connu, et c'était pas commun à l'époque non plus. Voilà. Mais le mot poilu, c'est pas une histoire de rasage, ni de propreté sur le visage, ni quoi que ce soit, non. C'est une histoire de virilité, simplement, pour faire face à tout ce qu'ils ont enduré, pendant cette grande guerre, voilà.
Ça faisait référence aussi au courage, hein, pas seulement
voilà,
à la virilité.
Voilà, c'est ça.
Alors, parlez-nous de Louis.
Alors, Louis, donc, c'est un jeune paysan qui est né à Uruf, en Meurthe-et-Moselle, et qui a grandi dans la ferme, et finalement, qui se nomme, prénomme plutôt Valentin de son premier prénom, mais qui n'a jamais voulu donc être employé car ça ne lui plaisait pas. Donc la famille, ses amis l'ont appelé Louis, donc du deuxième prénom. Voilà. Et c'est resté Louis depuis. Et ce personnage, donc, est rentré dans la guerre en 1914, après avoir fait son service militaire en 1912. Et il était rappelé donc au 42e bataillon de chasseurs à Lunéville, qui est un bataillon de réserve. Le bataillon de réserve du 2e bataillon de chasseurs, qui était lui aussi à Lunéville. Voilà. Et de là, il est parti donc pour le front. Voilà, en fin août 1914. Quoi, voilà.
Voilà. Bon, c'était aussi un homme, comment dire, courageux, non seulement courageux, mais je veux dire, il savait prendre les opportunités qui se présentaient. C'était quelqu'un qui était qui ne se contentait pas seulement d'obéir.
Non, pas du tout, car il avait un fond, disons, un fond assez courtois, aimable, et donc il aimait bien, disons, ses voisins. Il aimait bien ses amis et il saisissait toujours une opportunité pour rendre service. Voilà. Et c'est ce que je prouve dans son livre, qu'il pensait souvent donc à son grand ami Marcel, qui est le tandem, disons, du livre. Voilà. Et en fréquentant d'autres personnages comme Jean, comme le sergent Baquet et comme donc le lieutenant Jolibois. Alors que un officier, en principe, lit plutôt difficilement donc une certaine amitié avec les gens de la base. Alors que Louis, Marcel et Jean, ce sont des gens vraiment de simples soldats, quoi. Voilà. Au départ.
Hein. Au départ, oui.
Voilà. Donc, tout de suite, il y a une camaraderie qui s'est nouée au cours des derniers mois de 1914. Voilà, quand ils partageaient ensemble le couvert, le chagrin et les événements de l'époque. Voilà.
Et les joies aussi.
Oui,
voilà. Ce sont des hommes qui ne sont pas résignés, en fait.
Pas du tout, non. Pas du tout.
Alors, Louis et son ami Marcel, dont on parlait là, vont sauver une petite fille de 10 ans, voilà, Léonie, oui, dont les parents viennent d'être sauvagement assassinés par les soldats,
voilà,
allemands,
c'est, hein, c'est ça. Oui, Mont-sur-Meurthe, pendant le... Les Allemands avaient occupé ce village-là, donc en septembre 1914, à partir de la mi-septembre, et donc ils ont commis quelques exactions malheureuses, finalement, et en cherchant donc du ravitaillement, ils sont rentrés dans une maison où il y avait donc un couple, et cette petite fille, ces gens-là ne voulaient pas, disons, avaient refusé donc de les aider. Hein, disons sur les moyens à donner concernant l'alimentation, les repas et ainsi de suite. Et le papa donc de Léonie avait donc saisi un fusil qui était sur la cheminée, comme ça se faisait beaucoup à l'époque quand il était chasseur. Et dès que le geste a été donc entamé pratiquement en vue de saisir le fusil, c'est un coup de baïonnette qu'il a reçu en plein abdomen. Mmh. Sa femme a couru et a couru pour le défendre, et elle aussi, donc, elle a été tuée de la même façon. Voilà.
Mmh. Voilà. Donc, et par les soldats allemands, précisément.
Par les soldats allemands, voilà.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà.
Oui, oui.
Et Léonie, donc, entendant ce vacarme, elle était donc dans une chambre, hein, au premier étage de cette maison, et donc elle est descendue furtivement parce qu'elle se doutait qu'il y avait des Allemands, elle les avait déjà vus dans la rue auparavant, et elle a vu le carnage et elle s'est tout de suite donc recouchée faisant semblant d'être morte, voilà. Mmh. Disons, voilà. Et finalement les Allemands n'ont pas entendu cette petite fille pratiquement. Elles ne sont pas montées, donc regarder dans toute la maison ce qu'il y avait quelqu'un d'autre que d'eux, quoi. Voilà. Mmh, mmh. Et cette petite fille avait remarqué qu'un soldat allemand avait une grosse moustache, et elle en parlera plus tard.
Oui, oui, voilà. On en parlera dans le deuxième tome, enfin, voilà, dans le deuxième ouvrage, bien, voilà, sûr. Mais bon, non seulement, je veux dire, ils n'abandonnent pas Léonie, Marcel et Louis.
C'est pas qu'ils ils sont obligés.
Oui, bien sûr, mais...
Mais enfin, il la recueille, il la réconforte, il la recueille. Et ensuite, donc, Léonie, connaissant le village, les gens du village, se dit qu'il y a un monsieur, monsieur Nicolas, donc, qui est paysan, chez lequel son père donnait la main, mm-hmm, qui pourrait bien, disons, la recueillir. Donc, c'est elle qui leur dit, finalement, ben, c'est elle qui les oriente vers cette ferme, et en rencontrant ce brave monsieur, donc, Marcel et Louis la confient aux paysans, quoi, voilà, mais qu'ils pourront pas, ces paysans ne pourront pas la garder, quoi, voilà.
Mmh. Alors, voilà, vous trouverez, bien sûr, vous racontez la guerre de 14-18 en long, large et en, mmh, travers, mais vous racontez aussi beaucoup l'histoire des petites gens, en fait.
Ouais, oui, c'est ça aussi, oui.
Ah, c'est ça, mmh.
Bah oui, parce que donc Louis va rencontrer au fur et à mesure de son périple de guerre d'autres paysans chez lesquels il va donner la main,
oui,
d'ailleurs, car il faut bien s'occuper l'esprit dans les moments, les rares moments de loisirs et de quartier libre, donc autant qu'il se rend utile. Alors en se rendant utile, donc il lie à nouveau des amitiés, voilà, parmi les gens qu'il rencontre.
Voilà. Oui, bien sûr, parce que quand on parle, tous les ouvrages qui parlent de guerre parlent effectivement que des soldats, mais vous ne parlez pas que des soldats.
Non, non, j'ai pas voulu justement, parce que parler que des soldats, c'est pas ça la guerre. La guerre touche tout le monde, hein.
Bah,
femmes, hommes, enfants, et tous les milieux et tous les métiers, bien sûr. Voilà.
Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai appris quelque chose, que les soldats étaient équipés du fusil Lebel, du nom de son inventeur, qui était, oui, Meusien.
Racontez-nous. Voilà, oui, il est né à Saint-Mihiel, ce monsieur Lebel,
oui,
voilà,
oui,
est décédé en Bretagne, et c'est lui qui a inventé ce grand fusil, car, je dis bien grand fusil, parce qu'avec la baïonnette, il dépassait l'individu, d'ailleurs.
Oui, oui.
Bon, vous allez me dire qu'à l'époque, les hommes étaient assez petits.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ce n'est plus la morphologie d'aujourd'hui, oui, mais bon. C'est vrai que ça dépassait bien d'une tête, des fois, l'individu qu'il portait. Il était lourd, en plus. Et c'était un fusil, disons, moderne pour l'époque, parce que c'était le fusil à répétition. Donc, son magasin tenait donc 5 cartouches, Et donc il fallait agir sur la culasse pour chasser une et empoiter l'autre dans la culasse, ce qui permettait d'avoir un gain de temps pour tirer. Et
oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'avant ce fusil, il y avait toujours, c'était un fusil, des fusils à un coup avant.
C'était des fusils à un coup, et voilà. D'accord. Donc c'était pas très efficace. Alors que les Allemands avaient déjà sorti aussi le Mauser, qui était donc aussi une arme. Dommage d'employer le mot parfaite pour la guerre, mais bon. Voilà, quoi, qui était plus apte, disons. Voilà.
Oui, qui pouvait sauver des vies, quand même.
Oui, bien sûr. Bah oui, puisque la rapidité du tir fait en sorte qu'on peut gagner du temps sur l'adversaire. Car Louis, comme les autres, s'ils ont tué, c'était pour sauver leur peau. Hein. Ce n'était pas pour tuer l'individu qui était en face. Hein, de façon,
Certains Allemands, c'était pareil aussi.
Et chez l'adversaire, c'était la même chose, exactement.
Oui, voilà. Oui. Ce n'était pas du tout la même ambiance que dans le second ouvrage qu'on va aborder pour la guerre de 40. C'est pas la même génération.
C'est pas la même guerre non plus.
Hein. Non, on est bien d'accord. Oui. Alors, y a les femmes aussi qui vont, pendant cette guerre, les femmes vont se révéler. Elles vont remplacer les hommes.
Ah oui, effectivement. Et on leur doit justement un grand coup de chapeau à ces braves femmes. Est-ce que c'est elles qui vont gérer l'absence de leurs compagnons, de leurs maris, de leurs frères, voilà, partis sur le front, et elles vont gérer la ferme, elles vont gérer l'intérieur, s'occuper des enfants. Donc ce sont des femmes courageuses, valeureuses, et en qui on leur doit beaucoup. D'ailleurs, à Verdun, il y a peu de temps, peut-être 5-6 ans maintenant, qu'un monument à la gloire des femmes a été érigé sur le square des frères Boulot.
Voilà. D'accord. Puis elles se sont aussi engagées. Soigner les blessés, en fait.
Elles vont soigner les blessés. Elles participent aussi à la vie économique, à la vie industrielle de la France, qui a besoin de bras également. Et elles participent aussi à sauver les vies, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'engager dans les services sanitaires. Mm-hmm. C'est le seul corps qui accueille finalement les volontaires féminines à l'époque. Hein, oui. Voilà. Mm-hmm. Sauf quelques particularités, mais avec avec l'aval de l'état-major, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, c'est plutôt rare.
Mm-hmm. Et alors, nous sommes à Noël 1914, Maria et son amie Félicie. Donc, Maria, c'est la marraine de guerre de Louis.
Voilà, c'est ça.
Ils vont d'ailleurs développer un sentiment amoureux, bien sûr. Elle va devenir votre grand-mère, je pense.
C'est ça, elle devient ma grand-mère,
oui. Oui. Donc elle envisage de devenir volontaire pour soigner les blessés.
Voilà.
Donc elle pense que c'est une noble cause qui leur permettra d'attendre le retour de leurs amoureux, partir faire la guerre, bien sûr.
Voilà.
Alors en page 67, vous faites dire à la maman de Maria, parce qu'elles font des projets, parce qu'elles pensent déjà au futur, Et la réalité est bien souvent ce que l'on attend le moins et qui surprend toujours. Pour cela, il faut se prémunir et ne pas faire de plans qui seraient difficiles à tenir.
C'est vrai. Pourquoi ? Parce que l'avenir est incertain.
Mm-hmm.
Donc, faire des plans, comme disait ma grand-mère, sur la comète, vaut mieux plutôt assurer, quoi. Voilà. Mais là, ce n'était pas vraiment le cas à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'elle avait dit ces paroles-là à Félicie, dans les échanges coutumiers, d'ailleurs. Hein, voilà. Et bon, l'avenir était vraiment incertain, et faire des plans du vivre ensemble, d'avoir une famille, et ainsi de suite, c'était plutôt, difficile à penser, parce que pourrait-il advenir de Louis
bien sûr. Alors Jean-Luc, vous avez écrit de nombreux ouvrages et beaucoup sont consacrés à la guerre de 14-18. Mmh. Vous êtes originaire de Chalène et vous résidez à Verdun. Alors est-ce que les Meusiens ne peuvent oublier les ravages de cette guerre ? Est-ce qu'ils sont toujours hantés par le souvenir de cette période ?
Bien, cette période-là a beaucoup marqué les esprits dans notre département de la Meuse, même dans certains autres limitrophes aussi, hein, comme la Marne et la Moselle aussi. Tous ces départements, Meurthe et Moselle, ont été beaucoup marqués par cette guerre de 14. Toutes les familles françaises ont été touchées d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin d'ailleurs, par cette guerre. Et en Meuse, bon, ben, il y a eu des batailles assez épiques pour se remémorer ce que c'était à l'époque, quoi, hein, la bataille de Verdun, la bataille de Lavaux-Marie, la bataille de la Haute-Chevauchée, le saillant de Saint-Miel, les Éparges, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des hauts lieux de haute lutte,
hein,
où les hommes se sont pratiquement massacrés, quoi, hein, aussi. Et on ne peut pas, disons, passer outre. La mémoire est toujours présente, le terrain est toujours là.
C'est ça, les stigmates sont bien là quand même.
Le terrain parle,
oui.
Il parle encore. Donc quand vous visitez donc, le champ de bataille de Verdun, c'est trou d'obus sur trou d'obus et ainsi de suite. Les Éparges, c'est pareil. Les mines, les cratères de mines, hein, de la butte des Éparges, la butte de Vauquois également, qu'il ne faut pas oublier. Donc, tout un village détruit, enfoui donc, dans le sol. Mmh. Voilà, et c'était, disons, épouvantable, quoi, comme époque, et puis. Tout était bouleversé, hein, les champs, les prairies, les cimetières, on a tué deux fois les personnes ont été déchiquetées à nouveau dans les cimetières, bombardées autour des églises comme ça se faisait à l'époque, tout ça. Donc il y a eu beaucoup, disons, de destruction morale, physique et aussi donc d'infrastructures. Alors là, on pourrait même parler du village de Besançon, des 9 villages détruits aussi, qui concernent donc cette époque mortifère. Et c'est grâce à Raymond Poincaré qui, en 1919, a décrété que ces villages meusiens ne mourraient pas une deuxième fois. Contrairement aux autres villages détruits des autres départements, eux, ils sont personnes morales.
Oui.
Donc ils sont représentés par, non pas un maire, il n'a pas l'appellation de maire, mais l'appellation de président du conseil municipal, si je puis dire. Ils sont nommés par le préfet.
C'est ça, oui, c'est le préfet.
Voilà, donc comme leur durée de mandat donc, dure 6 ans comme un maire normal, tout à fait normal. Et ils ont la gestion de la commune puisqu'ils touchent des subventions pour ça. Ils ont l'obligation d'entretenir les forêts qui leur incombent, le patrimoine, historique, et que ce soit visitable aussi. C'est depuis un certain temps maintenant, il y a beaucoup eu de nettoyage de fait, d'allées. Ils ont agrémenté des chemins et ainsi de suite pour que les touristes aillent au plus profond justement de ces sites et se recueillir et voir cette histoire, quoi, voilà, qui est... qui est prenante et qui marque encore les esprits.
Oui. Voilà. Alors, pour écrire cet ouvrage, vous avez puisé dans les archives familiales ?
Alors, archives familiales, archives départementales aussi, et archives municipales.
Oui, oui.
Voilà, oui. Alors, les archives municipales concernant la Grande Guerre ne sont plus donc, dans les mairies, elles sont reversées donc, aux archives départementales. Voilà.
La Grande Guerre de Louis est une nouvelle édition. Alors pourquoi une nouvelle édition ? Vous avez procédé à beaucoup de modifications ?
Pas du tout. Non, c'est parce que l'éditeur d'origine a mis la clé sous la porte.
Oui, voilà. Comme beaucoup en ce moment.
Voilà.
Oui.
Et donc je me suis retrouvé un peu seul et je me suis dit que ce livre-là qui est encore commercial, devait donc être édité à nouveau. Et j'ai contacté les éditions de l'Officine, que je connaissais comme ça, de réputation aussi, parce que c'est une... ces éditions de l'Officine, finalement, ont été reprises par Sommaire Éditions, et maintenant, c'est conjointement qu'ils travaillent, voilà. Et la maison mère, qui était auparavant Saint-Nicolas-de-Port, a déménagé à Saint-Étienne.
Merci. Alors, nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter Une lettre oubliée par Juliette et Guillaume Depardieu.
Mon amour, ma bien-aimée, me voici. honnête lettre et qui, ma foi, peut me l'avoir envoyée.
Si tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux.
Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux?
Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner mon cœur épris.
Oh non, ça ne peut être lui.
Mon amour, mon feu, ma joie, je reviendrai, sois-en sûr.
Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture.
Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure.
Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture?
Oui, l'enfer est de ce monde. Ces heures, ces jours, ces secondes qui nous tiennent séparés.
J'ai beau chercher dans la ronde de mes amoureux passés, dans quelle amnésie profonde cet amant-là s'est noyé. Il n'y a rien d'éternel, rien qui ne résiste au temps.
Un baiser sur ta prunelle, sur ta bouche, tout autant.
Rien qui ne résiste au temps, et la mémoire est cruelle.
Mais adieu ma vie, mon cœur, il faut bien que je m'en aille. Que vaille, à moins que ton artilleur n'ait pour seule funéraille que l'étranger et la peur, le vacarme et la mitraille.
Certitude affirmée d'une simple signature.
Mon amour, si d'aventure au front je devais tomber, je voudrais que tu me jures de ne jamais.
Je voudrais que tu me jures de ne jamais m'oublier.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors avant d'aborder le deuxième ouvrage de Jean-Luc Kemar, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle Coccinelle Love.
Du haut de mon pissenlit, je les vois passer. Oh, innombrables et prêtes à dévorer toute ma tribu. Elles sont plus d'un millier à défiler en colonne sur plus d'un mètre de largeur. Comment lutter contre elles, contre ces terribles coccinelles asiatiques? Et d'ailleurs toutes, que ce soit celles de mon clan à 2 points, ou bien celles à 10 points, ou même les énormes 22 points, ne seront pas de taille à rivaliser avec ces chinoises, comme les appelle ma grand-mère. Apeuré, Je m'enfonce un peu plus dans le pistil qui m'abrite. Ma grand-mère me l'avait pourtant bien dit. Ne va pas traîner dans les bois de Sansoif, c'est plein de coccinelles asiatiques, toutes plus méchantes les unes que les autres. Eh oui, grand-mère, tu avais raison, mais moi j'adore me promener, explorer l'inconnu. Enfin, ça y est, elles sont toutes passées, toutes, sauf cette vieille coccinelle qui n'arrive pas à suivre la cadence infernale des autres. Elle se traîne, contournant le moindre brin d'herbe du chemin. Toutes les autres sont bien loin, il y a peu de chances qu'elles ne les rattrapent. Mais soudain, une violente bourrasque de vent déferle sur la forêt, venant secouer avec force mon fragile pissenlit. Inquiet, je m'enfonce encore un peu plus à l'intérieur du pistil. Oh, encore quelques instants, être secoué en tous sens par le vent, puis enfin le calme. Je jette un coup d'œil furtif plus bas, mais non, aucun signe de vie. Voilà, la vieille coccinelle a dû rejoindre ses copines pressées. Pourtant, j'aperçois une vision étrange. Un morceau de bois, doté de petites pattes sans tête, s'agite à quelques mètres de moi dans l'herbe haute. Oh, jamais vu chose aussi curieuse. Et justement, la chose curieuse ne bouge pas d'un centimètre. Un bougre. C'est une espèce que je n'ai jamais encore rencontrée jusqu'à aujourd'hui. Allons voir cela, mais méfiance. Est-ce un piège pour m'attirer, me prendre par surprise? Attention, Victor, attention. Ah, mais ils ne m'auront pas ainsi. Hein. Je suis pas un coccineau de 8 jours, moi. On me la fait pas. Ma grand-mère qui m'a élevé m'a toujours dit qu'il faut regarder de plus haut. Alors, je vais d'abord grimper sur un arbrisseau pour mieux voir la situation. Elle a des bons conseils, ma grand-mère. Oh, mais c'est quand même une vieille, hein. Elle croit toujours tout savoir. Les bons endroits pucerons, les lave-toi les papates quand t'es allé dans les pissenlits, les rentre pas après le coucher du soleil, c'est dangereux. Oh, non, je veux explorer le monde, moi. Monter tout en haut du grand chêne, traverser des flaques d'eau immenses, sentir les poils de bourrache sauvage sur ma carapace, et puis rencontrer les coccinelles oranges tout en haut des mélèzes. Je suis vivant, moi, je veux tout connaître, je m'appelle Victor. Hé, Victor, tu pourrais pas déjà me dégager de là avant d'explorer le monde?
Curieux, il me semble entendre une voix avec un fort accent étranger. Oh. Est-ce le génie des forêts, grand protecteur des coccinelles à deux points que j'entends là?
Non, écoute, mon garçon, je suis désolé, mais c'est tout simplement moi, la vieille Zoé. Et je suis coincé sous ce diable de morceau de bois. Allez, viens m'aider, crétonnerre.
Au secours, vite, se sauver, disparaître derrière cette grosse motte de terre. C'est bien l'une de ces terribles guerrières si cruelles.
Ah, tu m'attraperas pas sans combattre, hein, vieille Zoé. Mais puisque je te dis que je suis coincé sous ce morceau de bois, viens m'aider. Tu peux pas refuser ton aide à une vieille de plus de 4 ans, quand même.
Oh, diable, il est vrai qu'une coccinelle de 4 ans, c'est très vieux. Elle doit pas être très dangereuse.
Bon alors, tu te décides à me donner un coup de main, coccino? Et je m'appelle pas coccino, mais Victor, moi, vieille coccinelle. Oui, ben, dépêche-toi, j'en ai marre d'avoir les papates en l'air. Oh, j'arrive, vieille grognon. Allez, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je pousse le morceau de bois, je pousse, je le tire, je pousse. Mais t'as rien dans les papates, c'est pas vrai. On m'avait bien dit que les deux points étaient des chiffres molles, qu'ils avaient rien dans... Silence, vieille Zoé, où je m'en vais, moi. Je te laisse là, à ta fâcheuse position. Allez, tous les deux ensemble. À la une, à la deux, oh, isso, allez, pousse. Ouais, victoire, on a réussi. Oh, t'es un brave coccino, Victor. Tu m'as sauvé la vie. Les dieux de la forêt te récompenseront sûrement pour m'avoir libéré. Tiens, viens ici que je t'embrasse. Bah, non. Non, merci, j'aime pas les bisous. Mais si vous connaissez un bon coin, un puceron, alors là, oui, je suis preneur. Écoute, mon coccino, je vais y réfléchir, mais... dis-moi déjà, quelle heure il est? Si on veut l'attraper, il faut faire vite. Mais attraper quoi? Il est 12h24. Mais le hérisson express, il y a un arrêt juste là, à deux mottes de terre. Il va nous permettre de rejoindre tout mon clan. Le hérisson express va pas tarder. Tiens, je le vois là. Allez, viens. Non, mais attendez, je vais pas avec vous, Zoé. Comment ça, coccino, pas avec moi? T'aimes pas voyager? Découvrir des pays, tiens, vivre des nouvelles aventures, explorer le monde, les poils de bourrache sauvage sur la carapace, hein? Si, c'est vrai, la bourrache sur ma carapace, j'aime assez, mais mes grands-parents m'ont dit... Leve-la! Allez, monte, coccino, monte! Oh, je crois que je suis en train de faire une bêtise. Accroche-toi, coccino. Ah, oui, ça secoue un peu, hein. On a de la chance, il y a encore quelques places qui sont libres. Tiens, là, il y en a deux, juste devant le museau du hérisson à côté d'un couple de moustiques. Oh, j'aurais peut-être pas dû prendre cet hérisson express, mais où va-t-il m'emmener? Ne t'inquiète pas, coccino, je m'occupe de toi maintenant que tu m'as sauvé la vie. Ah, ah. Veux-tu que je te dise déjà d'où je viens? Bon, au point où j'en suis, pourquoi pas? Eh bien, alors, je viens du pays des machines à vent. Tu sais, toute blanche, celle-ci, elle tourne nuit et jour. Les guetteurs nous ont dit que ce sont les deux pattes humaines qui les utilisent pour s'aérer quand il fait très chaud. Ou pour autre chose, on ne sait pas trop. C'est à 5 journées de papa d'ici. Oh, 5 journées? Mais c'est très loin, vieille Zoé. Oui. Mais il n'y avait plus rien à manger chez nous, hein, tu sais. Alors, avec leurs pesticides, leurs engrais, hein, la plupart d'entre nous sont tombés malades et c'est pourquoi tu nous vois ici dans ton pays. Mais t'inquiète pas, nous ne sommes pas méchantes. On veut juste aller jusqu'au pays en face de chez vous, là, derrière le fleuve. Il y a déjà plusieurs de nos cousines qui sont installées. Ah oui, tu veux parler du pays des grosses à 24 points. Oh, j'en ai déjà vu qui est en excursion. Ils ont un drôle d'accent. Mais je sais pas si elles pourront toutes vous héberger. Leurs champs de coque-salade à coccinelles ne sont pas très grands. Et puis, si vous restez aussi chez nous, on sera trop nombreux, peut-être. Oh, tu sais, coccino, chez vous, c'est juste en attendant d'embarquer sur des feuilles de marronnier, hein, ou de peuplier. Un coup de vent et hop, toutes disparues du port, les encombrantes coccinelles chinoises. Et ta pauvre vieille Zoé avec. Oh non, 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 je commençais quand même à vous apprécier. Bon, peut-être que vous avez raison, finalement. Allez, restez avec moi. Quand il y en a pour 1000, il y en a pour 2000. Hein. Et puis, il y en a aussi qui mangent trop chez nous. Ah, tu as bien raison, coccino, tu as bien raison. Tiens, nous voilà juste arrivés. Descendons du hérisson express. Ils sont tous là, juste au bout du champ. Et regarde, j'aperçois ma petite fille qui vient à ma rencontre. Ouh, je suis là. Je suis là, Lynn chérie. Oh, grand-ma, tu nous as fait du souci. Mais où es-tu donc? J'étais inquiète. J'ai eu quelques petits ennuis, mais heureusement, il y avait ce sympathique coccino qui m'a porté secours et m'a sauvé la vie. Il s'appelle Victor, de la tribu des deux points. Beau garçon, pas vrai? Oh, grand-ma.
Oh, qui est belle, là, mademoiselle Lynn, s'exclama Victor en lui décochant un grand sourire. Miracle de l'amour, le coup de foudre fut immédiat entre eux. Coccinelle love. Lorsque Victor la vit, avec ses papattes toutes menues, ses yeux bridés et ses antennes luisantes dans le soleil, son cœur défaillit. Quant à Lynn, le regard tendre de Victor, ses deux gros points noirs bien dessinés sur sa carapace dorée, et ses grosses cisailles saillantes en firent qu'elle fut chavirée en un instant et devint amoureuse.
La vie d'une coccinelle n'est pas très longue. Aussi n'attendirent-ils pas trop longtemps pour se mettre ensemble, faire de nombreux coccinaux sous l'œil attendri de la vieille Zoé. Oui, l'amitié entre les peuples tient à peu de choses. Un grand sourire, un méchant bout de bois soulevé par une tempête, ou peut-être plus sûrement, à une vieille coccinelle espiègle.
Merci, John. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance du second roman de Jean-Luc, nous allons écouter Le Partisan, interprété par Leonard Cohen. Rappelons que La Complainte du Partisan est une chanson écrite à Londres en 1943 par Emmanuel Dastier de la Vigerie pour le texte et Anna Marley pour la musique. Cette chanson est diffusée pour la première fois sur les ondes de la BBC à destination de la France occupée.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Jean-Luc Quémard, venu nous présenter son ouvrage La Grande Guerre de Louis, publié aux éditions de l'Officine, et son roman historique La Résistante du Val des Couleurs, publié chez L'Harmattan. Alors Jean-Luc, dans La Résistante du Val des Couleurs, vous abordez la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Val des Couleurs ?
Alors le Val des Couleurs, c'est la région qui englobe une partie de la vallée entre Commercy et disons Neufchâteau pratiquement, traversé par la Meuse, et d'un coloris flamboyant l'été, voilà, moins flamboyant l'hiver,
oui,
bien
un
sûr,
peu plus grisâtre.
Mais donc c'est une forme poétique d'appeler cette région le Val des Couleurs, qui a donné son nom à plusieurs siècles déjà, à la ville de Vaucouleurs. Voilà.
Mmh. Alors Louis, du premier tome, gazé lors de la guerre de 14-18, malade des séquelles causées par les gaz utilisés par les Allemands, notamment lors de la bataille d'Ypres, meurt fin février 1939. Il avait conscience de ce qui allait advenir ?
Je pense, oui. Oui, parce qu'il en discutait avec ma grand-mère. Et donc, comme on dit dans un certain jargon, les bruits de bottes se faisaient déjà entendre donc, depuis 1933, pratiquement. Mmh, depuis 1933, depuis l'avènement d'Hitler au pouvoir, tout a changé. Hein, tout a changé au point de vue donc, relationnel, politiquement parlant, au point de vue de la confrontation d'idées chez certaines personnes, disons, en France également, même dans les petits villages et dans les petites villes, hein, puisque bon, tout ça, c'est de la politique. Hein. Et avec ma grand-mère, moi je me rappelle qu'elle avait eu donc une conversation peu de temps avant qu'il meure, que la France courait un grand danger, quoi, voilà. Il avait conscience de ce qui allait se passer. Voilà. Pourtant, c'était pas un homme vraiment intellectuel, parce qu'il était donc carriériste, oui, c'est ça, dans les carrières de fourrage ou à Vaucouleurs, et de sa petite personne, donc il pensait déjà ça. Quoi, voilà.
Mmh. Alors, comme lors de la guerre de 14-18, la Meuse n'est pas épargnée par la guerre, bien sûr. Alors, compte tenu de son passé, est-ce que la majorité des habitants se sont résignés à l'occupation allemande par fidélité au maréchal Pétain, qui avait le vainqueur de la bataille de Verdun ?
Ah oui, oui, il y en a certains, oui.
Certains, oui, pas la majorité ?
Au départ, si, quand on lit c'est beaucoup de documents dans ce domaine-là, Pétain, c'était le dieu, quoi. C'était oui. Par lui que beaucoup de gens voyaient donc la lutte contre l'Allemagne. Et beaucoup disaient même que Pétain usait d'une ruse pour amadouer Hitler, justement. Voilà, mais finalement, non. Pétain est rentré dans la collaboration après donc la rencontre de Montoire. Voilà, et ça, donc, beaucoup de personnes ensuite ont réfléchi à ce qui se passait, car l'armistice a donné peu de chances donc à l'économie et à l'industrie française de s'en sortir, puisque tout partait en Allemagne.
Mmh. Voilà. Alors, dans ce roman, nous retrouvons Léonie, la petite fille sauvée par Louis lors de la Première Guerre mondiale. Alors, Léonie a bien grandi, c'est une femme mariée à Rémi, elle a deux enfants et est institutrice à Chelen.
Voilà, oui.
Mais elle ne se résigne pas, elle.
Non, pas du tout, non. Bah, c'est dans son caractère, déjà, de battante, et puis par rapport aussi à son passé.
Son passé, mais oui.
Voilà, qu'elle a son passé, donc, poignant de septembre 1914, qu'elle n'oubliera jamais, d'ailleurs. Hein, mm-hmm. Voilà. Et pour elle, l'Allemand reste, donc, son ennemi. C'est même pas son adversaire, c'est son ennemi. Voilà. Et elle fera des pieds et des mains donc, pour entrer dans la lutte, car elle va vouloir lutter contre l'occupant, à sa manière à elle, avec ses moyens, mais elle luttera.
Oui. Voilà. Elle et son mari s'engagent dans la résistance.
Voilà,
hein.
Oui, tout parce à que fait, hein. Rémi aussi, donc, par rapport à ses deux frères, dont un a été tué sur le front en 1916, je crois, et l'autre qui est revenu avec une jambe en moins, donc lui aussi, il a un passif à régler avec les Allemands. Voilà.
Mm-hmm. Alors, elle est, au début, elle est messagère.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un poste qui lui permet donc de gravir quelques échelons, mais c'est un poste qui lui a été confié pour savoir vraiment ce qu'elle avait, disons, dans son propre intérieur, si elle était capable d'assumer. Voilà, il n'y a pas de petit travail dans la résistance, parce que la moindre mission couvre des risques. Oui. Mais là, fallait commencer par ça. Quoi, voilà.
Oui, oui. Et puis en même temps, les risques, il n'y a pas qu'elle qui pourrait les subir, il y a aussi sa famille.
Il y a sa famille, voilà, il y a ses familles, ses enfants.
Bah, bien sûr.
Voilà. Donc tout ça, c'est un environnement assez particulier qui la mine jour et nuit, pratiquement, avec son mari Rémi, hein, puisque il fallait faire attention, redoubler de prudence, pas faire n'importe quoi, pas dire n'importe quoi non plus.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que Rémi et Léonie ne partageaient pas, disons, leur mission.
Oui, le secret des missions.
Chacun d'eux avait sa propre mission sans connaître ce que faisaient l'un et l'autre.
Oui, pour éviter que...
Pour éviter justement, en cas, disons, d'arrestation, de subir et de parler.
C'est l'étanchéité des réseaux. Hein.
Oui, voilà, c'est ça, qui était très important.
Alors, la plaque devient faussaire, elle fait des faux papiers pour les juifs,
les prisonniers. Des faux documents avec... Monsieur Dujardin, oui. Puisque il ne s'agit pas de son vrai nom. Mm-hmm. Voilà. Et qui était, lui, photographe reconnu d'ailleurs à l'époque, puisque beaucoup de monde allait chez lui pour les photos de baptême, de mariage, de ceci, de cela.
Il n'y avait pas de selfie à ce moment-là.
Non, il n'y avait pas de selfie, non. Voilà. Et ce monsieur-là avait une double fonction, parce qu'il était réparateur aussi de postes TSF. Mmh. Voilà. Donc, il y avait les écoutes à Londres, il y avait les faux documents à préparer, les fausses photos même aussi, trafiquées, et ainsi de suite. Donc, il faisait tout ça en catimini avec Léonie dans une arrière-salle chez lui, dans une arrière-pièce chez lui, donc toute pourvue, disons, de rideaux, d'opacité dans les fenêtres, et ainsi de suite, parce que ça travaillait surtout la nuit.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors qu'il y avait le couvre-feu.
Il y avait le couvre-feu, et d'ailleurs, il y avait des patrouilles aussi allemandes qui passaient de temps... Enfin, elles passaient jamais aux mêmes heures. Hein, c'était pas régulier, bien sûr. C'était aussi pour surprendre. Voilà. Mm-hmm. Et il y avait aussi le camion donc goniométrique pour capter les ondes, néfastes pour eux.
Hein, oui, oui.
Puisque beaucoup de gens n'écoutaient pas la TSF dans leur salon ou dans leur cuisine, donc ils avaient planqué, caché les postes, dissimulés bien souvent dans les caves, dans le moindre recoin, et écoutaient Radio Londres en toute sécurité, si je puis dire, mais bon, toujours avec en tendant le dos, quoi.
Hein, oui, voilà. Bien sûr. Voilà. Mais bon, on est moins au courant des activités de Rémi, bien sûr. C'est plutôt centré sur Léonie.
Elle va
quand même accompagner des gens pour les faire passer la frontière, en fait. Hein.
Ben, oui, il y a l'épisode où il y a une évasion d'Israélites, du convoi numéro 62 qui arrive de Drancy en destination d'Auschwitz. Et ces gens-là, justement, il s'agit de Chalandeau et Aaron, et avaient édifié un tunnel, avaient participé à édifier un tunnel à Drancy pour déjà s'évader, qui a été découvert, et la sentence a été tout de suite, prononcée, direction les camps de la mort, donc Auschwitz. Et ce train, numéro 62, ce convoi, en abordant une pente au niveau de Lérouville, qui se trouve avant Commercy, dans le sud du département de la Meuse, il profite de ce fort ralentissement pour dégager les petites lucarnes des wagons à bestiaux, là, qui étaient donc grillagées ou faites de broc et de bois, et ainsi de suite, et ils réussissent à enlever donc ce qui empêchait de sortir. Mmh. Et dans commun accord avec les autres qui étaient à l'intérieur, ils les ont poussés dehors. Ils sont tombés sur le ballast, sans grave dommage, heureusement. Et là, ils ont pris la poudre d'escampette et pour atterrir dans pleine forêt, ils sont allés dans le village de Voix, qui se trouve à côté, Voix-Vacon, rechercher de l'aide. Et puis, il y a quelqu'un qui les a mis en liaison avec le réseau de résistance et d'évasion de Vaucouleurs, dont faisait partie Laoli.
Mmh. Voilà. Alors... À la fin de la guerre, il y aura l'épuration. Plus hargneux ne sont pas toujours les personnes les plus innocentes, n'est-ce pas ?
Alors, oui, effectivement, et elle va en faire un peu les frais, Léonie, là, puisque c'est ce qu'on appelle, en gros, dans le jargon des gens qui ont participé à la résistance, les résistants du 32 août. Voilà. Donc, il y en a eu beaucoup plus qu'on le croit.
Bien sûr.
Et ces gens-là, donc, se prennent pour des cadors, hein, et veulent faire, donc, la loi. Mais bon, c'est sans compter sur ceux qui ont vraiment participé à la résistance bien avant eux et qui ont payé de leur vie et qui ont payé de leur personne. Voilà.
Oui. Alors Louis, Léonie, Rémi sont des personnages courageux et résilients. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à faire face aux aléas de la vie tandis que d'autres s'écroulent ?
C'est une question peut-être de moralité aussi, hein, chez les individus. Hein. Voilà, il y en a qui baissent les bras puisqu'ils sont tout de suite défaitistes. Et puis il y en a qui disent non, je résiste. Voilà. Et puis il y en a qui sont toujours neutres, qui ne veulent ni résister, ni être défaitistes. Voilà. Il y en a qui ne sont pas vraiment marqués. Il y a disons, un peu ces trois systèmes de vie intérieure dans chaque individu, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais bon, il y a eu beaucoup plus d'individus qui se sont battus vers la fin que vers le début.
Ben
voilà.
Oui,
le temps que ça prenne tournure, savoir comment vont se dérouler les choses, et à partir de la défaite de Stalingrad, donc en février 42, les Allemands ont commencé à reculer, et là, donc, les Alliés ont pris le pas au fur et à mesure dessus, et là, se sentant des ailes, beaucoup d'hommes et de femmes, d'ailleurs, ont rejoint les réseaux.
Oui.
À partir de là, surtout.
Mm-hmm.
Parce qu'avant 1940, la résistance n'existait pas. Et la résistance existe depuis 1940 sur une partie du territoire seulement.
Oui, seulement, oui.
Et ensuite, lorsque les alliés anglo-américains ont débarqué en novembre 1942 en Algérie, là, le pas a pris. Mm-hmm. Voilà. Là, la France était carrément occupée parce que les Allemands, il y avait la zone libre et la zone occupée, donc tout ça est tombé à l'eau. Et les Allemands ont franchi donc le Rubicon jusque Marseille, quoi, pour occuper toute la France. Voilà.
Mm-hmm.
Et là, toutes les régions de France étaient donc agrémentées de réseaux, quoi. Voilà. Alors ces réseaux-là, il a bien fallu ensuite les unifier parce que chaque réseau défendait son propre lot.
Mm-hmm.
Et puis il y a la politique qui venait là-dessus, donc le communisme, ainsi de suite. Il a fallu donc réunifier tout ce monde-là, car ces gens-là pensaient déjà à l'après-guerre. Qui pourrait gouverner la France à l'après-guerre? D'où la venue de Jean Moulin pour réunifier tous ces réseaux, hein.
Oui,
voilà, qu'ils puissent s'entendre et être agglomérés sous la seule responsabilité du général de Gaulle à Londres.
Mmh. Voilà. Est-ce que vous diriez que le sentiment de patriotisme était plus présent avant que maintenant?
Je pense, oui.
Époque.
Ah oui, le patriotisme était là. Bah, la Grande Guerre venait de s'éteindre depuis une vingtaine d'années seulement. Alors,
mm-hmm.
Le patriotisme était toujours présent. Et puis, les jeunes étaient éduqués dans ce sens-là aussi, hein, dans les leçons de morale, les leçons de civisme dès l'école élémentaire. Donc, les jeunes étaient, poussés à devenir un bon patriote, et voilà, une bonne mère de famille, un bon père de famille, et voilà, quoi. C'était ça l'époque.
Hein. Oui, oui,
voilà.
Ça.
Voilà, maintenant, c'est plus tout à fait ça. Je pense que le patriotisme, maintenant, ce serait plutôt la défense de sa propre famille. Ce qui n'était pas exclu aussi à l'époque.
Bien
on
sûr.
Défendait sa propre famille, mais aussi le territoire auquel on appartenait. Là, maintenant, ça serait peut-être un peu plus délicat.
Mmh. Voilà. Alors, le temps passe très vite. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets d'écriture?
Ah oui, 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 bien sûr. Ça,
alors, ça va être encore sur la guerre de 40 ou sur la...
Non, alors là, j'ai un projet d'écriture, ça sera plutôt une histoire locale. C'est l'historique du village de Rouvroy-sur-Meuse, qui est très riche, que peu de gens connaissent, cet écrin
oui.
de verdure dans la Meuse profonde, pour ainsi dire. Et car je suis remonté jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'à l'époque contemporaine, et je parle de quelqu'un dont le berceau familial, qui est devenu un grand écrivain, dont le berceau familial est de Rouvroy-sur-Meuse. Il s'agit de Victor Hugo.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
Son grand-père habitait Nancy, donc voilà.
Voilà, c'est ça. Voilà, donc moi je suis remonté jusqu'au XVe siècle, car il y a un certain Jean Hugo qui appartenait à l'armée de Lorraine, capitaine, donc qui est venu s'installer à Rouvroy-sur-Meuse, et puis le nom d'Hugo s'est propagé, voilà, même dans les Vosges d'ailleurs, Meurthe-et-Moselle, voilà.
Mmh.
Voilà, donc pour ça j'ai contacté un monsieur qui fait la généalogie,
Et qui vous a aidé.
Qui m'a aidé, ouais. Voilà. Voilà.
Bon, on attend votre prochain ouvrage. Alors, merci à Jean-Luc Kemar d'être venu nous présenter son ouvrage La Grande Guerre de Louis, publié aux éditions de l'Officine, et pour son roman historique La Résistante du Val des Couleurs, publié chez L'Harmattan. Merci à John Bullitt qui nous a fait la lecture de sa nouvelle Coccinelle Love. Merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Mona. Merci.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Me demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café.